est 4h en temps universel. Vous êtes toujours sur Radio France Internationale, 6h à Paris. Gaëtan Plenet, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Un simple accident à la une de votre journal.
Le film qui remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes, film signé Jafar Panahi, réalisateur et dissident iranien. Une nouvelle nuit de frappe meurtrière en Ukraine, à Kiev, mais aussi dans l'ouest du pays. Malgré cela, la Russie et l'Ukraine sont censés achever ce dimanche leur échange de prisonniers, le plus vaste depuis le début de la guerre. Plus qu'une semaine pour faire leur choix, le second tour de l'élection présidentielle en Pologne, ce sera dimanche prochain. Le candidat d'extrême droite, Sławomir Mentzen, n'y sera pas, arrivé troisième la semaine dernière, mais il pourrait bien faire figure de faiseur de roi. Lui qui a recueilli la majorité des voix des jeunes électeurs, mais qui n'a pas donné de consigne de vote pour l'instant. Dans ce journal également, des mobilisations aux États-Unis et au Sénégal, alors qu'un Sénégalais chauffeur de taxi sur le sol américain risque d'être expulsé après ce que ses proches qualifient de malentendu culturel. On vous expliquera tout. Et puis on sera aussi en France, avec d'abord le placement en détention provisoire de 4 personnes soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic d'êtres humains. Et puis sur la terre battue de Roland-Garros, le tournoi de tennis démarre aujourd'hui. Derrière les barreaux de la prison d'Evin en février 2023, acclamé hier soir au Festival de Cannes, le réalisateur iranien Jafar Panahi a remporté la Palme d'Or pour son film Un simple accident, un long métrage tourné clandestinement à Téhéran et qui interroge sur les envies de vengeance d'anciens prisonniers qui croisent celui qui les a torturés, humiliés lorsqu'ils étaient en prison. Un film qui défie la censure de la République islamique, mais qu'importe, Jafar Panahi n'a plus envie de trembler et il compte retourner en Iran dès ce dimanche. Il y a quelques jours, il était au micro de notre envoyé spécial à Cannes, Guillaume Thibault, et il nous parlait du régime des mollahs dans son pays à bout de souffle, selon lui.
Bien sûr qu'un régime ne peut pas durer, surtout de cette façon, éternellement, et qu'il va finir par s'écrouler, même si on ne sait pas quel est le jour de cet effondrement. On voit déjà que la racine ne tient plus et qu'on n'a plus qu'à faire à une coquille vide, parce que la déroute est totale sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan environnemental. Il n'y a plus rien de vivant qui irrigue ce système qui est à la tête de l'Iran. S'il continue de dominer, c'est parce qu'il a le pouvoir que lui confère les biens de ce pays, que lui confère l'armement. Mais en dehors de cela, toutes les fondations qui étaient la défense de la culture iranienne, la défense de l'environnement de l'Iran, la constitution d'une société, d'une politique saine, en ne le faisant pas et en laissant ce système se pourrir de l'intérieur, c'est évidemment à chaque fois un coup de pioche donné pour creuser leur propre tombe.
Jafar Panahi, déjà récompensé à plusieurs reprises ces dernières années, ours d'or à la Berlinade en 2015, prix spécial à Venise en 2022 et désormais donc Palme d'Or à Cannes pour Un simple accident qui sortira en France au mois de septembre. Alors parmi les autres récompenses décernées hier soir à Cannes, on signalera le Grand Prix du festival pour Sentimental Value de Joachim Trier et puis un double prix du jury aussi pour Sirat d'Olivier Lax et pour Sound of Falling de Mash Chilinski. On fait le point sur le palmarès de cette 78e édition dans le journal de 7h, heure de Paris. Au moins 15 morts hier à Gaza, selon les secours locaux, après de nouvelles frappes israéliennes. Parmi les victimes, 9 enfants d'une même fratrie. Leur maison a été bombardée à Ran Younes. Seuls le 10e frère et le père ont survécu, mais ils sont grièvement blessés. La mère, pédiatre, se trouvait à l'hôpital au moment de la frappe. Interrogée par nos confrères de l'AFP, l'armée israélienne ne reconnaît pas pour l'instant des pertes civiles dans son raid. Des morts également en Ukraine. 4 d'abord dans une ville de l'ouest du pays. Les autorités militaires viennent de l'annoncer. 3 autres victimes un petit peu plus tôt dans la soirée à Kiev, après une nouvelle nuit de frappe russe sur la capitale et sa région, où 15 personnes avaient déjà été blessées la veille. Le tout alors que l'Ukraine et la Russie ont commencé, vendredi, un échange de prisonniers, le plus vaste depuis le début de la guerre, censé aboutir à la libération de 1000 personnes dans chaque camp. L'échange doit s'achever aujourd'hui à Moscou. Jean-Didier Revoy.
Natacha, ils nous ont échangé, tout va bien. C'est en ces termes qu'un soldat russe annonce sa libération sur des images diffusées par le ministère russe de la Défense. On y voit aussi les soldats montés dans un autobus, émaciés, les traits tirés mais le regard brillant à l'idée de retrouver leurs proches, ou encore posés pour une photo devant un autobus avec, au vent, un drapeau russe bien sûr. mais aussi un drapeau soviétique. Sans triomphalisme excessif, la presse russe s'est félicitée dans la soirée du retour à Moscou par avion des 307 soldats russes libérés. C'est un résultat concret des accords intervenus à Istanbul la semaine dernière et qui prévoit un échange de prisonniers à hauteur de 1000 contre 1000 pour chacune des parties. Preuve que des canaux de communication existent, même si on ne connaît pas encore la date ni le lieu de la prochaine rencontre des délégations. À noter encore un propos de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou remettrait à Kiev un projet de règlement de crise lorsque cet échange serait terminé, d'ici quelques jours sans doute. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
La guerre en Ukraine, ce fut l'un des sujets centraux chez le voisin polonais pendant la campagne présidentielle. Le premier tour a eu lieu dimanche dernier. Le second, ce sera dimanche prochain et ce sera à la fois avec et sans Sławomir Mentzen, candidat du parti d'extrême droite. Sans lui parce qu'il est arrivé troisième, il n'est pas qualifié. Mais avec lui un petit peu quand même, il risque de peser lourd dans la balance du second tour. C'est lui qui a recueilli la majorité des voix des jeunes électeurs. Forcément, les deux candidats en lice pour le poste de président, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et son rival Karol Nawrocki espèrent bénéficier du report de leur voix. Mentzen le voit, Mentzen le sait, alors il tente d'imposer son rythme. Correspondance à Varsovie d'Adrien Sarla.
L'élimination de Sławomir Mentzen dès le premier tour dimanche dernier avait des airs de victoire. Le candidat réactionnaire a bien compris que le report des voix de ses électeurs pourrait bien décider de l'issue du second tour. Mais il s'est bien gardé de leur donner une consigne de vote.
Les électeurs ne sont pas des sacs de patates. On ne se les transfère pas d'un candidat à l'autre comme ça. C'est pourquoi j'invite les deux candidats du second tour à venir discuter sur ma chaîne YouTube.
Une invitation qui s'accompagne d'une condition, s'engager à respecter 8 principes chers aux électeurs de Mentzen une fois élus. Lors de son passage jeudi, Karol Nawrocki a signé la déclaration d'intention rappelant les similarités entre son programme et celui de son hôte. Mais hier soir, Rafał Trzaskowski s'y est refusé, s'opposant frontalement à la moitié des engagements proposés par le candidat malheureux du premier tour.
Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, il y a plein de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Sławomir Mentzen. Ma vision n'a pas changé, même si elle n'est pas du goût de tout le monde. Cependant, il y a des thèmes sur lesquels on peut arriver à un accord.
Souligner ses points communs avec l'extrême droite sans pour autant trahir son électorat libéral, l'exercice est périlleux mais nécessaire pour le maire de Varsovie s'il veut avoir une chance de l'emporter dimanche prochain. Adrien Sarla, Varsovie.
Au Venezuela, c'est bien ce dimanche que l'on vote. Élections législatives et régionales, ouverture des bureaux de vote à 10h en temps universel et des résultats attendus dans la soirée. 400 000 membres des forces de l'ordre déployés dans tout le pays pour assurer la sécurité du scrutin. Reste à savoir quelle sera la mobilisation. Elle s'annonce très faible, entre 70 et 80% d'abstention selon les enquêtes. Alors que la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, empêchée, on le rappelle, de se présenter lors de la présidentielle de l'été dernier qui avait vu la réélection contestée de Nicolas Maduro. Maria Corina Machado donc a appelé au boycott. Il est 5h08 à Abuja. Des dizaines de morts après deux attaques de bandes armées dans le nord-est du Nigeria. C'est un bilan du gouverneur de l'état de Taraba. Il ne donne pas de chiffres précis, mais les habitants parlent, eux, d'une trentaine de corps sans vie retrouvés. Un ressortissant sénégalais menacé d'expulsion aux États-Unis. Il s'appelle Serigne Saliundoy. Il est originaire de Thiès. Sans papier sur le sol américain, il conduit parfois des taxis. Et c'est justement lors d'une course avec une passagère, américaine qui lui vaut d'être détenu au Texas. Un malentendu culturel dénonce ses proches. Explication depuis Dakar avec Juliette Dubois.
Selon ses proches, l'événement a eu lieu il y a une dizaine de jours. Lors d'une course de VTC, une passagère américaine aurait demandé à son chauffeur, Serigne Saliundoy, de mettre de la musique. Ne maîtrisant pas bien l'anglais, l'homme aurait expliqué qu'il n'écoutait que le Coran pour des raisons religieuses. La passagère, effrayée, aurait demandé à descendre immédiatement sur l'autoroute, ce qu'il aurait refusé de faire. La femme a interprété cela comme une tentative de séquestration et Serigne Aliou a été arrêté. Aucune charge criminelle grave n'a pour le moment été retenue contre lui selon ses proches, mais l'émotion est vive dans la diaspora et sur les réseaux sociaux. Une pétition lancée pour demander sa libération atteignait 122 000 signatures samedi. Le texte parle de fausses accusations et de biais religieux et les signataires multiplient les témoignages pour prouver la probité morale de Serigne Saliou, un homme actif de la communauté sénégalaise et de la confrérie Mouride au Texas. La diaspora sénégalaise aux États-Unis a aussi lancé une cagnotte pour financer sa défense. Les 30 000 dollars demandés ont déjà été réunis et Serigne Saliou a désormais un avocat. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Trois personnes arrêtées en Corée du Nord, les trois responsables du chantier d'un nouveau navire de guerre. Il y a quelques jours, lors de la cérémonie de lancement, une partie du bateau s'était retrouvée broyée. Le dictateur Kim Jong-un, présent, avait dénoncé un acte criminel. En France, ce sont quatre personnes qui ont été placées en détention provisoire, on l'a appris hier. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un important trafic d'êtres humains, un trafic pour le moins juteux entre les continents africains, américains et européens, Baptiste Coulon.
Un passage clandestin de l'Égypte vers l'Europe facturé 10 000 euros. C'est une entreprise très lucrative que viennent de démanteler les enquêteurs français de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. D'après le journal Le Parisien, qui en révèle les principaux contours, l'affaire remonte au mois d'octobre 2024. Le réseau est alors repéré par les autorités françaises qui identifient plusieurs têtes ainsi que des complices, puis une véritable filière d'immigration illégale qui évoluait entre l'Égypte, les États-Unis, notamment via la France et d'autres pays de l'espace Schengen. 1600 personnes auraient ainsi profité de ce réseau qui aurait encaissé pas moins de 900 000 euros de bénéfices depuis 2023 selon le parquet de Paris. Cinq hommes âgés de 24 à 72 ans, originaires d'Égypte, ont été interpellés avec le concours de la police américaine, puis mis en examen la semaine dernière. Parmi les suspects, l'un est soupçonné d'avoir dirigé le réseau, un autre d'avoir joué le rôle de passeur. Sur les cinq hommes, quatre ont été placés en détention provisoire à Paris. Le cinquième a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
La précision de Baptiste Coulon. La terre est toute fraîche sur les cours de Roland-Garros à Paris. Elle ne va pas le rester bien longtemps, rassurez-vous. Début du grand chelem de tennis ce dimanche. Premiers échanges à 11h heure de Paris. C'est très ouvert cette année dans le tableau féminin. La polonaise Iga Swiatek est la triple tenante du titre, c'est vrai, mais elle est en petite forme depuis quelques mois. Chez les hommes, deux favoris se dégagent. L'espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur l'an dernier, et l'italien Yannick Sinner, l'actuel numéro 1 mondial. C'est la 124e édition du tournoi parisien et elle sera marquée par plusieurs célébrations. Ça commence d'ailleurs dès ce dimanche, Eric Mamrut.
La première star à l'honneur de ce cru 2025 sera Raphaël Nadal. Et oui, le néo-retraité sera bien sur le court central ce dimanche, non pas en tenue de joueur, mais en costume de ville afin de recevoir l'hommage que Roland-Garros a décidé de rendre à l'Espagnol 14 fois vainqueur du tournoi. Seront également célébrés durant la quinzaine Marie Pierce, dernière française à avoir remporté Roland-Garros, c'était il y a 25 ans, mais aussi Caroline Garcia. L'ex numéro 1 tricolore vient d'annoncer l'arrêt de sa carrière dans les prochaines semaines et dira au revoir au public parisien. Autre hommage celui rendu à Richard Gasquet. À bientôt 39 ans, le Biterrois vivra les ultimes moments de sa vie de tennisman sur les cours de la Porte d'Auteuil. Ce sera soit lundi, face à son jeune compatriote Terence Atman, soit en cas de victoire mercredi, face certainement à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial italien qui fait figure de grand favori de cette édition, en compagnie de son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, le tenant du trophée, à moins que Novak Djokovic ne vienne jouer les troubles fêtes. Le Serbe de tout juste 38 ans, loin d'être retraité et qui ne désire qu'une seule célébration, celle du dimanche 8 juin avec la Coupe des Mousquetaires dans les bras.
S'il remportait dimanche un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic deviendrait le recordman absolu en la matière. Lui qui déjà a remporté le 100e titre de sa carrière hier sur la terre battue de Genève. Il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'information africaine dans 20 petites minutes. À suivre d'ici là, votre chronique défense. On fera le portrait du nouveau chef des forces terrestres russes, le général Andrei Mordvitchev, un homme qui s'était notamment illustré pendant le siège du port de Mariupol en Ukraine. C'était en 2022. Plus légèrement, une nouvelle espèce de bambou découverte dans le monde. La généalogie au secours de ceux qui se cherchent des racines. Ce sera dans la chronique Vivre ailleurs. Et puis à suivre aussi un avant-goût de votre émission L'Atelier des médias qui sera diffusé un petit peu plus tard dans la journée. Et au programme ce dimanche, les relations entre l'actuel président américain Donald Trump et les journalistes, et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais d'abord, c'était il y a un petit peu plus de 4 mois, Donald Trump justement prêtait serment et devenait président américain. Depuis, festival d'annonces, de politique choc, notamment sur le commerce. Ce matin sur RFI, on donne la parole aux libertariens, l'un des courants de pensée du parti conservateur, celui du milliardaire. Une idéologie qui pourtant s'oppose sur de nombreux points à celle conservatrice, sur la place de la religion dans la politique notamment. Alors 4 mois plus tard, comment ces libertariens voient-ils la politique de Donald Trump? Trump. Reportage à Mount Washington dans le Kentucky, Edouard May.
Trois personnes terminent la réunion mensuelle du parti libertarien local dans une salle de cette bibliothèque publique. Un des points de désaccord avec les républicains est la place qu'occupe la religion dans la politique, comme l'explique Steve, le président du parti libertarien local.
Je me considère comme un chrétien anarchiste, ce qui veut dire que chacun devrait vivre la vie que Dieu a prévue pour lui, et le gouvernement ne devrait pas nous dire comment faire cela. Le gouvernement ne doit avoir aucun rôle dans la vie des personnes. Ce que les gens font ne nous regarde pas.
De nombreux États conservateurs, comme ici dans le Kentucky, ont interdit ou réduit l'accès à l'avortement, citant notamment des raisons religieuses, un argument auquel Steve s'oppose.
Je ne suis pas en faveur de l'avortement, je n'aime pas ça. Mais s'il existe une clinique d'avortement et une personne estime qu'elle a besoin d'y aller, je peux détourner le regard, car la dernière chose qu'on veut, c'est la création d'un marché noir.
Autre point de désaccord, la politique anti-immigration des républicains, contraire aux valeurs de Mitch.
Je suis pour l'ouverture des frontières. Je n'ai aucun problème à ce que les gens entrent dans ce pays. C'est ce que tout le monde a fait quand ce pays a été créé. Et je pense que c'est formidable d'avoir un groupe varié de personnes avec des idées et des cultures différentes. C'est une chose géniale. Essayer de renvoyer la moitié de la population ou je ne sais combien, on s'en fiche.
Une des revendications principales des libertariens est de diminuer le rôle du gouvernement, ce que fait Donald Trump avec ses coupes budgétaires drastiques et ses licenciements de fonctionnaires. Mais la façon dont le président procède n'est pas la bonne pour Rhonda.
Je pense qu'on doit examiner chaque partie de l'administration pour voir où est-ce qu'on peut faire ces changements. Mais arriver avec un bulldozer en renvoyant tout le monde et en retirant des ressources au peuple américain n'est pas la bonne façon de le faire.
Les trois personnes s'opposent également au système politique américain, dominé par les deux partis, républicains et démocrates, et regrettent le manque d'alternatives politiques. Edouard May, Mount Washington dans le Kentucky, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. Un nouvel homme à la tête des forces terrestres russes, c'est le général Andrei Mordvitchev qui a été nommé. Ancien commandant militaire du siège du port de Mariupol en Ukraine, c'était en 2022. C'est un général expérimenté, blessé au combat et même donné pour mort par les Ukrainiens. Un adepte de la guerre totale, il a largement contribué à améliorer l'efficacité des troupes russes. Son portrait dans Ligne de défense avec Franck Alexandre.
Mâchoire carrée et regard bleu acier. Andrei Mordvitchev, 49 ans, est un pur opérationnel sans état d'âme, pointe Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou, un général qui est une figure de la guerre d'Ukraine.
Oui, même une figure haute en couleur. Dans une rare interview donnée à la télévision russe à l'été 2023, il professait aimer ce qu'il appelait alors l'humour d'officier et professait notamment un ordre donné sans juron, ce n'est pas un ordre, c'est un souhait. C'est aussi dans cette interview qu'il avait clairement laissé entendre qu'à ses yeux, la guerre en Ukraine, c'était un tremplin avant un conflit plus large avec les pays d'Europe centrale, à commencer par la Pologne. Alors à cette époque, Andrei Mordvitchev était déjà un commandant très remarqué en Russie. C'est lui qui avait dirigé la bataille de Mariupol, l'assaut sur Azovstal. L'Ukraine et les ONG l'avaient alors accusé de crime de guerre.
Adepte de la vitesse et de la manœuvrabilité, ce général a promu l'utilisation de moyens de transport légers comme les motos pour faire avancer l'infanterie. Sa nomination n'est pas une surprise. Il est dans le moule de l'institution militaire, dit Vincent Touré, spécialiste de la pensée stratégique russe.
Il a l'air d'être un officier solide et peut-être même compétent. Mordvitchev, c'est quelqu'un qui a fait une carrière classique. Je pense qu'il y a une part de symbolique aussi. On a élevé à la tête de l'armée militaire russe une personne qui a démontré des succès sur le terrain. Il a démontré du moins des capacités de planification rares dans l'armée russe, avec la complexité entre comment on intègre les drones, comment on intègre les blindés, les armes traditionnelles, et comment on fait ça pour le maintenir dans le temps.
Blessé à la tête de la 8e armée lors de la bataille de Mariupol, Andrei Mordvitchev s'est à nouveau illustré lors de la prise de la forteresse d'Advivka en février 2024, ce qui lui a valu, souligne Anissa El-Jabri, la médaille de héros de Russie.
C'est la récompense militaire la plus haute. Andrei Mordvitchev avait notamment été crédité par certains blogueurs d'avoir utiliser un tuyau pour faire déboucher ses hommes derrière les lignes ennemies. Parmi les plus jeunes gradés de l'histoire militaire, il est aussi mis à son actif d'avoir été le tout premier commandant russe à introduire l'utilisation obligatoire de drones dans chaque unité sous sa responsabilité. Andrei Medvedev occupe désormais des positions beaucoup moins proches du champ de bataille, mais ils sont nombreux ici à déjà le voir en pole position pour remplacer le chef d'état-major Valéry Gerasimov.
L'arrivée du général Medvedev marque un changement de génération, mais pas de doctrine. C'est une transition naturelle, assurent les spécialistes de l'armée russe et les criminologues.
La chronique défense sur RFI, signée Franck Alexandre. Il est 6h20 à Paris. La nature aime se cacher, disait Salvador Dali, et plus de 2500 ans avant lui, le philosophe grec Héraclite. Eh bien, on en a la preuve chaque année que la nature aime se cacher. Des milliers de nouvelles espèces sont découvertes sur la planète, des animaux, des plantes, des champignons aussi. Et cette semaine, votre chronique C'est dans ta nature vous raconte la découverte d'une espèce de bambou. Elle est unique au monde, Florent Guignard.
Parfois on cherche et on ne trouve rien, et puis parfois on trouve sans vraiment chercher. Et c'est par hasard, il y a une douzaine d'années, qu'une expédition scientifique au Laos est tombée sur une plante qui n'avait jamais été observée. Denis Larpin est le responsable des collections végétales tropicales au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et il nous raconte la suite.
C'était dans une zone karstique, avec des crevasses, un relief très, très déchiqueté. Les botanistes ont trouvé cette plante qui était un peu curieuse, un peu desséchée, etc. Ils sont retournés plus tard, en saison humide. Là, c'était en saison sèche. Et en saison humide, ils ont vu qu'il y avait des feuilles, cette fois, avec des tiges très gonflées, etc. Et ils ont déduit que c'était un bambou.
Une nouvelle espèce de bambou, on en compte déjà 1600 sur la planète. Et en l'absence de floraison, un bambou peut parfois mettre des dizaines d'années avant de fleurir. C'est une analyse ADN qui a permis d'affirmer que ce bambou était unique. On lui a donné un nom, Laobambos calcareus, le seul bambou succulent, ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément excellent à manger, même si c'est la même racine.
Succus, le suc, la sève, avec des réserves importantes, des cellules qui permettent de stocker de l'eau, en fait, hein, en forte quantité. C'est une adaptation de la plante pour survivre, avoir des réserves d'eau.
Parce que ce bambou pousse sous un climat particulier, aux saisons extrêmes, une sécheresse intense et une période de mousson. Et ce n'est d'ailleurs pas complètement au hasard si cette nouvelle espèce de bambou a été découverte dans une forêt tropicale, Denis Larpin.
C'est là où il y a la plus forte diversité, avec des zones qui n'ont pas été explorées. Il y en a de moins en moins, des zones qui n'ont jamais été explorées. Mais voilà, évoluer, marcher dans la nature, dans la forêt, en ayant le sens de l'observation, l'expertise, on peut trouver beaucoup de choses qui interrogent.
2000 espèces végétales sont découvertes chaque année sur la planète. Les forêts tropicales abriteraient 90% de la biodiversité mondiale, pour l'essentiel encore inconnue. On passe à la question.
Quel est le rapport entre Cher et les éléphants ?
Eh bien, la chanteuse américaine, 79 ans cette semaine, s'était mobilisée il y a quelques années pour sauver le dernier éléphant du Pakistan, maltraité dans un zoo. Le Pakistan aujourd'hui possède 2 éléphants, là encore dans un zoo, et cette fois ils ont la tuberculose. La maladie est endémique pour les humains au Pakistan, alors compte tenu du poids des pachydermes, 4000 kilos, ils ont droit à un traitement de choc, 400 comprimés avalés tous les 2 jours, un remède de cheval pour les éléphants, pour qu'ils guérissent. Allez, on y croit.
C'est dans ta nature avec Florent Guignard et Cher sur RFI. D'où venons-nous et qui sommes-nous réellement ? La généalogie est censée pouvoir répondre à ces questions. Sauf que les réponses sont parfois difficiles à trouver, notamment pour les Français qui ont beaucoup voyagé et qui ont vécu à l'étranger. Pourtant, oui, la généalogie peut aider les expatriés à se reconnecter avec leurs racines françaises. Et Grégory Viguier est historien et généalogiste spécialisé dans les histoires familiales. Basé à Nîmes, il répond aux questions de Corinne Manjou. Il revient notamment sur l'origine de sa passion.
Alors cette passion vient de ma plus tendre enfance. On a toujours eu une tradition de l'histoire et du patrimoine familial très très fort dans la famille. Et donc tout naturellement, cette passion est devenue une activité professionnelle.
Est-ce que vous avez des clients expatriés ?
Tout à fait. Les gens, quand ils souhaitent rechercher un petit peu leurs racines, ils aiment bien chercher eux-mêmes à droite à gauche. Mais c'est sûr que lorsqu'on est expatrié, c'est pas évident. Et donc beaucoup de personnes font appel à moi, comme je suis sur place en France, pour faire les recherches. Et avec les moyens de communication qu'on a, c'est très facile de communiquer avec des clients qui se trouvent partout dans le monde. Donc je suis un peu leur relais sur place et je fais des recherches qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'on peut faire des recherches aussi en ligne, mais c'est très réduit par rapport à toutes les sources qu'on peut trouver en allant directement dans les centres d'archives.
Et comment vous procédez très concrètement pour les aider à se reconnecter à leurs racines ?
Une recherche généalogique, c'est un travail à la carte, parce que tout dépend ce que souhaite le client. Juste avoir une information, on va dire, ponctuelle sur un seul ancêtre, par exemple un arrière-grand-père qui aurait fait la Grande Guerre, un grand-père qui aurait fait la Seconde Guerre mondiale, ou d'autres personnes souhaitent directement faire l'arbre généalogique complet sur 4, 5 ou 6 générations. Après, c'est un travail d'enquête. On part de la personne qui se trouve à la base de l'arbre généalogique, et à partir, c'est mon travail de remonter le plus loin possible sur 4, 5, 6 générations en fonction de la demande de la personne.
Et pour cela, vous avez besoin d'archives.
Oui, tout à fait. Les centres d'archives sont très nombreux. Alors, ceux qu'on connaît le plus, ce sont les états civils qui se trouvent dans les mairies avec les actes de naissance, mariage, décès. Mais au-delà de ces archives de base qui servent à remonter l'arbre généalogique, il y a des sources annexes qui permettent de compléter l'histoire familiale, comme les archives militaires. Il y a les archives du monde du travail, où certaines entreprises déposent leurs archives, les archives du monde hospitalier, les archives judiciaires, etc. Donc en fouillant un petit peu, c'est un travail d'enquêteur à la Sherlock Holmes, on recherche un petit peu des informations et ça permet de retrouver le parcours de la vie d'un ancêtre.
Est-ce que vous avez des problèmes particuliers liés à vos clients expatriés ?
Si on peut appeler ça des problèmes, c'est des manques d'archives, des trous dans certaines informations qu'on ne retrouve pas, un ancêtre qu'on ne retrouve pas parce que les archives ont été détruites à certaines périodes de l'histoire. Donc à partir de là, oui, il y a besoin des fois de se déplacer, mais le déplacement se fait dans l'hexagone, donc pour essayer de trouver l'information qui manque.
Pour ceux qui ont vécu très longtemps à l'étranger, avec des parents eux-mêmes ayant vécu à l'étranger, il n'y a peut-être pas grand-chose ici pour eux.
C'est sûr qu'au bout d'une ou deux générations où les personnes expatriées vivent à l'étranger, ils perdent un petit peu la notion de l'histoire familiale, surtout quand on n'est pas sur le territoire. Et donc, anecdote, j'ai une personne qui connaissait à peine ses grands-parents qui étaient en France, et j'ai découvert sur une cinquième, six générations que c'était des descendants de généraux de l'époque de Napoléon. Il y en a d'autres où j'ai découvert, en faisant les recherches, que c'était des personnes nobles, descendants directs de personnes nobles qui possédaient à l'époque de la Révolution des châteaux. Et donc, ils ont été agréablement surpris, ces deux clients qui étaient aux États-Unis quand je leur ai appris cette nouvelle. Parce que ces personnes ne reviennent pas tout le temps en France. Donc voilà, il y a une certaine utilité dans le métier qui est très valorisant.
Et ça permet aussi de peut-être retrouver certains membres de la famille qu'on ne connaissait pas.
Oui, voilà, les fameuses cousinades. Une personne qui se trouvait en Afrique, un expatrié, outre de remonter l'arbre généalogique, il m'avait demandé si je pouvais essayer de retrouver une cousinade parce qu'il était très intéressé de revenir en France. Et ça faisait 20 ans, je crois, qu'il n'était plus revenu dans l'Hexagone. Et donc, ça lui aurait fait plaisir de faire une cousinade et de retrouver frères, sœurs, cousins, petits cousins et tout, et de faire une grande fête pour les retrouvailles à son retour en France.
Grégory Viguier, historien et généalogiste, il était interrogé par Corinne Manjou. Comme chaque dimanche matin sur RFI, on vous propose un extrait de l'émission L'Atelier des médias qui vous attend à 11h10 en temps universel. Cette semaine, aux côtés de Steven Jambeau, le journaliste québécois, Richard Latendresse, correspondant à Washington pour la chaîne TVA depuis bientôt deux décennies. En 2017 déjà, au début de son premier mandat, le président américain Donald Trump qualifiait les médias d'ennemis du peuple. Richard Latendresse, accrédité à la Maison-Blanche, explique la relation que l'actuel président des États-Unis entretient avec les médias et comment elle tranche avec le style de Joe Biden.
Donald Trump, c'est un immense manipulateur et sa façon de nous décrire comme des ennemis du peuple, ça nous place sur la défensive, mais en réalité, il aime qu'on le questionne, il aime être à la une, ce qui fait que il aime parler, il nous invite dans le bureau ovale, il profite de toutes les occasions pour partager avec nous ce qui lui passe par la tête, les projets qu'il a, les idées qu'il a, aussi les jugements qu'il porte sur le travail qu'on fait. Sous Joe Biden, ce que moi j'avais déjà vu à l'époque, mais ce qui se confirme maintenant avec différents ouvrages, c'est que le président aussi était plus fatigué, plus vieux, moins présent. Donc, on nous le cachait davantage. Et quand il sortait, alors, ce sont des images que nos auditeurs ont certainement vues, le président marchant vers Marine One, l'hélicoptère présidentiel, et s'arrêtant auprès de nous pour répondre aux questions. Joe Biden, le faisant, récupérait une question au vol et nous donnait trois mots qu'on entendait vaguement à travers les hélices et les moteurs de l'hélicoptère, et il continuait son chemin. Quand Donald Trump le fait, il va s'arrêter, il va donner des réponses de trois minutes. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour lui de placer des mots. Et sur ce plan-là, et c'est important encore une fois, là, Donald Trump dit tout et son contraire, mais il le dit au moins. Alors, à un certain moment, tu recoupes tout ça, et tu dis, ben, il semble y avoir un filon, là, on se dirige vers quelque chose avec tout ça.
Le journaliste québécois Richard Latendresse au micro de Steven Jambeau. Vous les retrouvez donc dans l'atelier des médias à 11h10 en temps universel sur RFI et dès maintenant dans une version longue sur RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. Restez avec nous sur RFI.